Avoigny. Cette semaine, Adila Benedjaizou rencontre Philippe Mangeau. Ce soir, écrire.
Bonsoir Philippe Mangeau.
Bonsoir Adila.
Hier, nous avons évoqué les différents usages que vous avez faits de votre expérience d'ancien combattant, je dirais. Et j'aimerais que nous nous arrêtions aujourd'hui sur l'écriture. On vous a qualifié d'intellectuel sans livre, je parlerai plutôt d'une écriture hors des livres. Et j'ai déjà évoqué votre Instagram, mais il me semble que ce soir, il en est question plus que jamais. On y trouve par exemple la photo d'un bas-relief, le buste d'un soldat sans tête, intitulé « The Invisible Soldier », le soldat invisible. Pour moi, elle fait un écho troublant à cette photo de vous que j'ai déjà citée, où votre tête semble sculptée dans la roche. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette photo fait partie d'une série nommée « En sortant de chez mon psychanalyste » et que vous présentez ainsi. Série de photos prises dans un périmètre de 250 mètres autour du cabinet de mon psychanalyste. Sachant que sur Instagram, une telle série s'appelle une « story » et que sur cette application, vous écrivez quasiment exclusivement en anglais et sous pseudo. Donc ma question, c'est est-ce que ce compte Instagram est une expérience d'écriture ?
C'est une expérience de fiction, plus qu'une expérience d'écriture. En fait, ça m'intéresse que vous parliez de ce compte Instagram, parce que je me souviens que quand j'ai commencé à le faire, personne n'a compris. C'était vraiment m'installer à un endroit auquel j'étais pas spontanément associé, d'abord parce que les réseaux sociaux m'avaient largement échappé pendant des années et des années, et ensuite parce que c'est un réseau de... Enfin, il y a une vulgarité dans Instagram qui était précisément ce qui m'intéressait. Et ce qui m'intéresse aussi d'ailleurs comme spectateur d'Instagram, il y a mille choses qui m'intéressent dans Instagram, notamment les amitiés virtuelles qui peuvent se fabriquer avec des gens qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaîtra pas, et pourtant dans l'intimité desquelles on rentre. Mais pour autant, c'est une intimité fictive. C'est un exercice d'autofiction Instagram, c'est un exercice de production d'une image de soi, qui tient à la fois de la fabrication de sa légende et de l'impudeur. Et comment on négocie entre l'impudeur et la fabrication de la légende, c'est une question qui m'intéresse comme lecteur, et là, en l'espèce, comme producteur, mais comme producteur mineur, puisqu'Instagram est un lieu de production mineure. Alors vous parlez d'écriture, et en même temps c'est de la photographie. C'est-à-dire qu'il y a un premier écart relativement à l'écriture, l'endroit où on m'attend, justement. C'est de la photo, c'est de la production d'images. Et je me suis mis à faire de la photo parce qu'Instagram m'intéressait, et pas l'inverse. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, il y a un deuxième écart qui est le passage à l'anglais. C'est-à-dire le passage à une langue dans laquelle je suis maladroit. Je me débrouille correctement, mais il n'y a aucune souveraineté de la parole que je pourrais avoir plus facilement en français. Et par ailleurs, il y a un troisième écart qui est qu'Instagram n'est pas un lieu d'écriture, justement, et que je charge quant à moi la question de l'écriture, puisque contrairement à beaucoup de gens, mes images sont commentées, elles sont légendées et elles sont commentées plus qu'elles ne sont hashtaguées. En fait, l'hashtag a pas du tout une fonction poétique, comme c'est souvent le cas chez beaucoup d'instagrammeurs. Ça a une fonction de répertoire. Donc, est-ce que c'est de l'écriture ? Je sais pas, sauf à filer la métaphore de l'écriture, mais c'est de la fiction. Et le désir de fiction de moi est sans doute né chez moi à un moment très particulier, qui était le moment où se terminait l'écriture du film de Robin Campillo. Moment qui s'est accompagné pour moi d'un sentiment très fort d'exposition de notre propre histoire et de ma propre histoire au sein de ce collectif. Et j'ai eu peur tout d'un coup, alors que je contribuais à écrire notre légende, d'être assigné à cette légende. Donc il a fallu la compliquer un peu.
Et pourquoi Instagram ? Pourquoi pas une forme d'autofiction plus classique ?
Parce que je n'aime pas écrire. Alors c'est une question compliquée. J'ai beaucoup écrit dans ma vie. Le paradoxe est sans doute là. C'est-à-dire j'ai beaucoup écrit Et pour autant, je ne suis pas un écrivain. Mon rapport à l'écriture est toujours passé par un savoir-faire. J'écris bien, voilà. Mais c'est pas ça un écrivain. Un écrivain, c'est quelqu'un qui... Enfin bon, il ne s'agit pas de dénoncer une norme de ce que doit être un écrivain, mais je veux croire, en tous les cas, chez les écrivains que j'aime, que quelque chose s'est découvert de leurs pensées, de leurs idées, d'eux-mêmes, dans l'écriture. Et pas que l'écriture était un médium qui leur permettait d'exprimer leurs pensées eux-mêmes, etc. etc. Et ce rapport-là à l'écriture, je ne l'ai pas. Je l'aime chez les écrivains que j'admire, que je lis, que je défends, ou que je fréquente, mais je l'ai pas, et j'ai un rapport souffrant à l'écriture. Je me suis souvent demandé comme lecteur s'il fallait beaucoup de vanité ou très peu de vanité au contraire pour écrire. Je pense que c'est les deux sont vrais. Il faut sans doute être très vaniteux pour considérer que ce qu'on a à écrire ou ce qu'on écrit a le moindre intérêt, en tous les cas un intérêt suffisant pour être livré comme ça à la publicité. Mais sans doute faut-il être très peu vaniteux pour accepter cette épreuve-là. Et il se pourrait bien que je sois à la fois trop vaniteux et pas assez vaniteux pour écrire, pour des raisons rigoureusement inverses. Alors peut-être qu'un jour, hier ou avant-hier, on parlait du livre que je devrais faire. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est un mythe, je ne sais pas dans quelle mesure je le ferai. Il me semble en tous les cas que ce livre sur l'année 97 ne peut être qu'un livre. Et que pour le coup, le passage par l'écriture sera nécessaire. Avec ce que permet l'écriture, que permet moins sans doute le cinéma ou la photographie. C'est-à-dire la possibilité de superposer vraiment les plans, ce qui est quand même le secret de l'écriture. Et donc la possibilité d'affronter l'énigme de des vérités contradictoires. Cette libération était une catastrophe.
Lors d'un observatoire des passions, vous avez déclaré préférer la littérature à la philosophie.
C'est vrai. Alors, il se passe un truc très très bizarre, c'est que dans les multiples malentendus qui m'accompagnent ou qui m'escortent, je suis régulièrement présenté comme un philosophe, ce qui est très très mystérieux, et d'ailleurs ça m'agace souvent parce que je suppose chez mes interlocuteurs que c'est une forme de compliment inconscient, la philosophie ayant conservé cette espèce de souveraineté disciplinaire qu'elle a eue en tous les cas depuis deux siècles. Pourquoi je suis pas philosophe? D'abord parce que m'intéressent les façons impures de penser et que la littérature pense de façon impure et que ça m'intéresse et qu'elle pense avec le génie propre qui est le sien, qui est de s'attarder aux singularités, ce que la philosophie sait pas forcément très très bien faire et que c'est précisément la vérité des singularités qui m'intéresse. Mais je pense qu'il y a une autre raison, qui est une raison d'expérience sensible, c'est que le lecteur que je suis a très peu rencontré de livres de philosophie qui m'aient donné le sentiment qu'ils avaient été écrits pour moi. Ou en tous les cas, qui m'aient donné le sentiment qu'ils me laissaient une place. C'est-à-dire que dans un livre de philosophie, et là je m'en vante pas particulièrement, hein, je dis quelque chose d'une érotique qui est la mienne relativement au livre, je n'ai jamais de petit coin où m'asseoir. J'ai jamais de fenêtre à ouvrir et je peux jamais me cacher nulle part dans les recoins du livre. Donc oui, vraiment... Si j'ai un rapport à la philosophie, ce que j'ai comme tout le monde, fondamentalement tout le monde a un rapport à la philosophie, il passe très largement par le détour poétique. Que ce détour poétique ait à voir avec un certain usage de la langue, une certaine façon d'inventer son rythme dans la langue, ou un certain écart de la fiction. Pour autant, ça pense, hein. Le sens m'intéresse, et la vérité m'intéresse.
Mais vous ne pensez pas que cette supposition, cette identité de philosophe qu'on vous prête, elle est due au fait qu'on a tendance à écarter littérature et réel?
Oui, on écarte littérature et réel, mais ceux qui le font, en général, ont peu de rapport avec la littérature, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas beaucoup lu, fondamentalement. Non seulement ils n'ont pas beaucoup lu la littérature qui se fait aujourd'hui, qui s'intéresse beaucoup à la question du réel, mais par ailleurs, sans doute, n'ont-ils pas beaucoup lu la littérature qui se faisait auparavant. Quand même, enfin, je risque d'enfoncer une porte ouverte, mais si vous lisez le canon littéraire ou le corpus... des textes qu'on étudie à l'école, par exemple, c'est dans la littérature que pour la première fois a émergé la notion de la vie privée, l'histoire des femmes, l'histoire de la sexualité, toutes choses qui intéressent l'histoire, la philosophie, etc., mais avec un peu de retard relativement à ce que la littérature a donné à voir et à penser. Autrement dit, même quand elle passe par la fiction, la littérature est directement en prise avec la question du réel et du réel le plus immédiatement contemporain.
Et dans quel petit coin de quel livre vous avez trouvé à vous asseoir?
Alors ça, c'est vraiment la question la plus compliquée. C'est la question la plus compliquée parce que c'est la question des listes. Quoi. Mes listes changent tous les jours. Ce que je peux dire, et ça va paraître sans doute bizarre après que j'ai dit que je n'étais pas philosophe, c'est que je n'avais pas prévu, alors même que je suis venu tardivement, comme je le disais l'autre fois, à la lecture par la question des fictions, je n'avais pas prévu que la littérature d'idées finirait par prendre autant de place. Et à cet égard, je n'avais pas prévu que Montaigne deviendrait aussi important pour moi. C'est-à-dire que sur les listes des livres que j'emporterais avec moi dans une île déserte, tous les livres changent, sauf sans doute les essais de Montaigne.
Vous parliez d'un livre possible sur l'année 1997. Est-ce qu'il y a d'autres formes d'écriture dont vous auriez envie aujourd'hui?
Je ne suis pas sûr de répondre à la question que vous m'avez posée. Je vais peut-être faire un petit détour. Je pense qu'une des choses qui m'empêche dans l'écriture, c'est notamment la solitude. Et je disais l'autre fois, je parlais de l'invention des textes collectifs à vacarme. Cette idée qu'on puisse inventer des formes d'écriture qui soient collectives et où plus aucune phrase n'appartient ou n'est référable à quiconque, ni même à aucune pensée véritablement constituée et singularisée. Ça m'intéresse. Et ça a sans doute à voir avec la façon dont moi-même j'écris et avec la façon dont moi-même je pense. J'ai jamais eu d'idée tout seul. Voilà, les idées se sont toujours fabriquées dans l'intervalle entre une personne et moi qui suis en face, dans la discussion, dans l'élaboration collective dans une classe, dans le rapport à un livre ou dans le rapport au texte d'un autre. Et en fait, les seuls moments où j'ai un rapport un tout petit peu réconcilié avec la question de l'écriture, c'est précisément ces moments de l'interlocution. Je crois qu'il n'y a pas de coïncidence, finalement, à voir que la quasi-totalité de mes aventures d'écriture, à l'exception de quelques articles que je peux véritablement signer en mon nom, et où mon nom n'est pas seulement une sorte de d'accréditation. Mais à l'exception de ces quelques articles, dont un d'ailleurs qui a été publié dans Vacarme et qui porte sur l'année 97 et qui est comme une matrice de ça, la majorité de mes expériences d'écriture, c'est des expériences à plusieurs. Qu'il s'agisse du travail sur un scénario de film, parce qu'il y a eu le scénario de Robin Campillo, mais il y a un autre scénario aussi avec quelqu'un qui a été mon compagnon, Mario Fanfani, scénario des Nuits d'été. Qu'il s'agisse des aventures collectives militantes, parce qu'on a parlé d'ACT UP, mais on pourrait parler aussi de cette France-là, qui était un groupe qui avait été lancé par Michel Féher et un certain nombre d'amis, et qui avait pour vocation de publier chaque année un annuaire des politiques d'immigration à l'époque du mandat Sarkozy. Et dans tous ces cas, et donc là il y avait une production de texte, puisque c'était un annuaire, donc un livre, mais dans tous ces cas-là, il s'agit de modalités d'écriture collective. Le prof de littérature que je suis réfléchit pas mal en ce moment à la façon dont on est sans doute sorti d'un régime de littérature qui a été le nôtre pendant un certain temps, et à la façon dont on est en train de redécouvrir le Moyen-Âge, de redécouvrir ces formes d'écriture qui procèdent du mix, du réinvestissement collectif, des logiques de variation, etc. Toutes choses qui caractérisent vraiment la littérature du Moyen-Âge et qui ont été relativement abandonnées avec la naissance de la notion consolidée d'auteur à partir du XVIe siècle. Et dont on est en train de voir le bout, pas seulement d'ailleurs en littérature, en musique aussi, et sans doute aussi en politique.
Il y a une chose qui est assez surprenante, je reviens à l'usage que vous faites d'Instagram, c'est cet usage du réseau social, alors que vos expériences passées ont été plutôt des expériences de partage où le corps était en jeu, où on était ensemble au même endroit.
Alors là, je suis bien incapable d'y répondre. Je disais tout à l'heure que m'intéressait la possibilité d'amitié virtuelle. Ce que j'ai pu formuler lors d'un des premiers observatoires des passions, c'est que si j'avais une passion fondamentale, c'était l'amitié. Reste à savoir ce qu'on appelle amitié. C'est toujours très compliqué. Je parle à des gens... Et j'ai l'impression de sans cesse qu'on ne parle pas exactement de la même chose quand on parle d'amitié. Qu'est-ce que ça veut dire d'être dans une familiarité très grande avec quelqu'un dont je connais les amours, la vie, et qui habite en Australie ou en Thaïlande? Qu'est-ce que ça veut dire de s'envoyer des signes, d'accuser réception d'un message, alors même qu'on ne se verra jamais? Il y a là quelque chose comme un lien, et qui est un lien qui n'est pas totalement dépourvu de corps. C'est-à-dire, la virtualité, c'est pas le contraire du corps, en un sens. Et ça m'intéresse. Ça m'intéresse à titre expérimental. Je suis absolument persuadé qu'Instagram va s'arrêter bientôt. Voilà. Je parle pas d'Instagram en général, je parle de mon Instagram. J'adore les gens qui creusent un très petit trou, mais très profond. Moi, je circule sur les surfaces, quoi. Je fais de la photo, et puis à un moment, j'arrête de faire de la photo et je vais apprendre l'arabe. Et puis après, après avoir appris l'arabe, je me remettrai au piano. Et puis après, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que l'idée, c'est de pallier ma très grande absence de profondeur et de ténacité par une exploration systématique des surfaces disponibles.
C'est une vision extrêmement classique de l'écriture, alors, puisque ça veut dire que vous excluez toute expérience d'écriture collective, enfin, de scénario, une revue, plusieurs articles.
Ah mais non, mais pas du tout, je l'ai fait. Ah, si...
Parce que vous dites, pardon. Je n'écris pas. Pour quelqu'un qui n'écrit pas, je trouve que vous commettez beaucoup de mots.
Non, vous avez raison. Vous avez raison. Foncièrement, j'écris beaucoup, mais je suis pas un auteur. Voilà, j'ai pas d'œuvre. Il m'est arrivé d'ailleurs de plaisanter en disant que le jour où je serai mort, mon œuvre, ça aura été le nombre de livres, articles, œuvres cinématographiques dans le générique ou dans les premières pages desquelles il y a mon nom au titre des remerciements. Je dois être le type le plus remercié sur la place de Paris pour avoir filé un coup de main. En ce sens, je lis beaucoup. Je crois que je suis un bon lecteur d'ailleurs de ce point de vue-là. C'est pour ça qu'il ne faut pas du tout avoir l'impression que je pêche par excès de modestie en disant que ça n'a pas été de l'écriture, etc. Je suis vraiment un bon lecteur. Et je crois que les gens le savent. Et je suis souvent frappé d'ailleurs par le fait qu'il n'y a pas tant de bons lecteurs que ça. Il y a souvent des gens qui ont une idée très ferme de ce que doit être un livre, ce que doit être un film, ce que doit être un scénario. Et moi, j'ai pas d'idée très ferme, mais en revanche, je sais repérer à l'intérieur d'un livre, d'un film ou d'un scénario, ce qu'il y a de singulier et ce qui est cherché et ce qui échappe pour le meilleur et parfois pour le pire à celle ou celui qui a écrit. Et là-dessus, j'interviens. C'est ma façon à moi d'écrire. Et en vérité, c'est comme ça que j'ai écrit aussi, parce que si on y réfléchit bien, si on reprend ce qui s'est passé avec Robin quand on a écrit ce film très singulier pour nous, parce que c'est après tout notre histoire, on a énormément parlé, on a énormément échangé, on s'est énormément raconté, mais je n'ai pas participé à la première mouture du scénario. C'est-à-dire que c'est Robin qui l'a écrit. Après que pendant un an, toutes les semaines, on a parlé, on a discuté, on s'est raconté. On a échangé des idées. Et c'est une fois qu'une première version, une version zéro, une version martyre du scénario a été écrite, que j'ai pu intervenir. Je suis un écrivain de deuxième main. Voilà.
Et justement, pour cette expérience d'écriture collective qui a été le scénario de 120 BPM, c'était une histoire collective. Comment vous avez procédé pour convoquer d'autres mémoires que les deux vôtres ?
C'était compliqué. C'est-à-dire qu'il a fallu mettre pas mal de fantômes au boulot. Ça a vraiment été une usine de fantômes. Ça tombait bien parce que j'ai beaucoup de fantômes dans ma vie et j'en ai beaucoup sous la main et au moins ils servaient à quelque chose ou à quelque chose d'autre qu'à venir me tirer les orteils pendant la nuit. Ça a été compliqué et ça a été sans doute d'autant plus compliqué qu'il y avait la mémoire des morts mais il y avait aussi la mémoire des vivants et qu'il est sans doute encore plus difficile de se faire le porte-parole ou le porte-voix d'une mémoire de vivant que le porte-voix d'une mémoire de mort. Et c'est l'une des raisons d'ailleurs du choix jamais inquiété de la pure fiction. Tous les personnages sont fictifs. Tous les personnages sont fictifs, à la fois d'ailleurs parce que ça permettait sans doute des incarnations plus élégante, plus singulière, plus facile, mais facile au beau sens du terme pour les acteurs eux-mêmes qui ont pu inventer les personnages et pas être pieds et mains liés par tel ou tel modèle historique d'act-up, ce qui me gêne souvent dans les biopics d'ailleurs, mais aussi par politesse à l'égard des mémoires singulières de ce groupe. C'est-à-dire qu'il fallait surtout que personne ne se retrouve face à son Clouse-Vellet, son Didier Lestrade, son Philippe Mangeot, son Nan Rousseau, sa Sophie Russell, pour donner des noms. Et donc, il fallait que tous les personnages soient composites, de sorte que les personnages portent en eux une mémoire de groupe et qu'ils ne soient pas assignés à telle ou telle figure historique d'act-up. Et ça a été un drôle d'exercice. C'est un exercice très beau parce que c'est fabriquer des monstres. On a fabriqué des monstres et je crois que la fabrication de ces monstres-là a permis d'accéder à une forme de vérité de groupe à l'intérieur desquelles les anciens militants d'act-up peuvent circuler.
Est-ce que vous avez eu des comptes à rendre sur cette écriture ?
Alors, pour être tout à fait honnête, je crois que Romain m'a demandé de participer à l'écriture parce qu'il l'aurait pas fait tout seul et parce que il considérait que j'étais une sorte d'autorité dans l'histoire d'act-up. Ce qui est vrai, il y a relativement peu de gens comme ça qui peuvent, pour cette partie de l'histoire-là, qui peuvent prétendre rendre compte de l'ensemble de la vie du groupe. Il y a Didier Lestrade, il y a moi. Beaucoup d'autres sont morts, qui en auraient été capables, mais ils sont morts. Et donc, de ce point de vue, j'étais une garantie pour Robin. Et une caution. Mais c'est vrai qu'une fois que le scénario a été écrit, on l'a envoyé à Didier. Et Robin avait très peur. Moi, j'avais pas tellement peur, mais Robin avait très peur. Et Didier a donné lui aussi sa caution. Après, il y a toujours l'inquiétude de la réception. Il y a eu très peu de réceptions hostiles. Il y en a eu. Mais souvent, cette réception hostile, les deux fois où elle s'est formulée, la majeure partie des anciens militants d'ACT UP qui ont parlé du film en ont parlé avec beaucoup d'émotion et beaucoup de gratitude sur l'exercice de vérité qui avait été le nôtre. Les deux fois où ça s'est passé, c'était soit quelqu'un qui rejouait le rapport compliqué qu'il avait eu avec ACT UP. Et ACT UP était une histoire compliquée parce que ça demandait tellement, ça engageait tellement de soi que pour beaucoup de gens, partir d'ACT UP, ça a été claquer la porte. Parce que c'était la seule façon de partir. Quand une expérience est trop forte, il faut surjouer son départ. Et donc le surjeu du départ s'est reproduit à l'occasion du film. L'autre fois, l'autre procès était un procès qui tenait à l'appréhension de mémoire. Mais une préemption de mémoire qui devenait d'autant plus problématique que le film avait du succès et qu'il y a toujours un soupçon à l'égard de gens qui gagnent leur vie sur le dos d'une histoire collective, qui gagnent leur vie ou leur réputation ou leur capital symbolique.
Merci Philippe Mangeau.
Merci Edith Labbé.
Demain, pour ce qui sera, hélas, notre dernière rencontre, nous parlerons de transmission.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre d'Adila Benedjaizou avec Philippe Mangeau. Avoigny, réalisation Massimo Bellini, prise de son Nicolas Mathias, coordination Claire Poinsignon. Avoigny s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.